15, incluant le bon exclusivité de 15 $ disponible au mopar.com. Et ça inclut même l'huile 100% synthétique sans frais. Ça t'apaise un moteur, ça. Détails chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Mopar, nos véhicules, nos experts. Certaines conditions s'appliquent.
Boulevard 102, la radio de Québec pertinente.
Écoutez ce qui se passe et ce qui se brasse dans l'actualité. Pendant ce temps-là, je vais aller voir ce qui se brasse sur Pornhub. Oh, il s'en brasse des affaires!
Qui vous rapporte la nouvelle de façon objective.
C'est la preuve irrévocable de l'existence du loup-garou en audio.
Si tu crois que
des invités percutants.
Ben oui, petit coup de sympathie. Oh, oui. Commence le martel. J'aurais peut-être un manager.
Une radio intellectuelle.
Moi, je suis scorpion.
Je suis capricorne.
Je suis vierge. Ça, on savait.
Facile.
Ben, une radio spéciale. Spéciale. Boulevard 102.1. La radio spéciale. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Hello, salut, bonsoir. Oui, j'allais dire bon midi, mais non, on est le soir, on est lundi. On dirait que c'est Noël, il y a de la neige. Maître Bellemare, bonsoir.
Ouais, tu sortis tes skis, là?
J'ai pas sorti mes skis. J'ai rangé ma moto hier.
Hein?
Je l'ai échappé belle.
Prémonitoire.
Je trouvais qu'il commençait à faire froid un peu.
Ouais.
Je me suis dit, ouais, peut-être que je devrais pas prendre de chance puis de la rentrer parce que je pense pas faire de la moto à cette température-là. J'ai laissé sur le côté. Fait que si jamais on a un genre de 15 degrés, maintenant, je vais peut-être faire une dernière run. Mais sinon, ça va être serré pour l'hiver, cher.
Un autre été autochtone.
Autochtone. Ouais.
On a-tu eu un cette année? On a une semaine de soleil, là. C'était peut-être l'été indien qu'on appelait.
Peut-être.
Aujourd'hui, on va dire l'été I. L'été en I.
Ouais. Peut-être.
Pas se faire dire, voilà, oh, vous nous accusez quand il fait chaud, que ça.
Ouais. Non. Mais bon, les journaux ont commencé à rapetisser. Hein.
J'en regardais beaucoup.
Ce matin, j'étais sur la route, il était 5h30. C'est extrêmement noir. Puis là, ben, il fait vraiment noir. Pas grave, l'été va revenir à un moment donné, mais là, pour l'instant, c'est 0 degré sur Québec, c'est ce qu'on nous mentionne. Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, ce sera de la neige mêlée à de la pluie. Ça devrait cesser cette nuit, c'est ce qu'on nous mentionne, minimum de moins 6 degrés. Pour ce qui est de demain mardi, ce sera une belle journée ensoleillée avec un maximum de plus 2, mercredi ensoleillé maximum de plus 1, jeudi ensoleillé maximum de plus 4 et vendredi nuageux avec un maximum de plus 5 degrés. On est avec Maître Marc Bellemare. Si vous avez des choses à nous dire, se passe quelque chose sur la route ou encore vous avez des commentaires pour nous autres, ben c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Mais oui, effectivement, ce matin, on s'est levé avec un tapis blanc et on a dû réapprendre à conduire Maître Bellemare avec un peu de neige, un peu de slotch. Il y a eu quelques sorties de route. Là, moi, sur mon chemin, ça a bien été, mais je lisais tantôt dans la grande région de Québec des sorties de route. C'est quand même curieux que les gens se méfient pas plus que ça.
Pas d'accident grave, mais non. C'est sûr que on a déjà parlé en onde, là, le fameux règlement. Là, c'est-tu le 15 novembre ou le 15 décembre? Décembre à Québec.
Avant, c'était le 15. Là, on est rendu le 1er décembre.
Écoute.
C'est trop tard.
Moi, à part là, la SAC qui verse des indemnités à des criminels qui sont en prison, là, je pense que c'est la deuxième aberration. 1er décembre, tu es obligé de mettre tes pneus d'hiver. Mais sur quelle planète ils vivent? Là? Regarde aujourd'hui, là. C'est glissant, là.
Ouais.
Les gens qui sont en pneus d'été, moi, je suis en pneus d'été, mais je pars le matin, je reviens le soir, mais tu sais, je sais pas, moi, ça ressemblait à quoi à 4 heures du matin, là?
Ben, c'était très glissant. Moi, j'étais là à 5h30, puis je roulais à 70 sur l'autoroute. Là. Il n'y avait pas d'abrasif qui avait été mis.
Ouais, c'est ça.
Puis si j'allais un peu plus vite, là, je pouvais faire de l'aquaplanage. Fait que j'ai juste ralenti, mais on réapprend à conduire à chaque automne-hiver. Là. On n'a pas le choix. Faut s'adapter. Puis bon, il y avait des sorties de route, mais je sais pas s'il faudrait mettre ça au 15 novembre maintenant, les pneus d'hiver. Vous faites partie de la génération où il y avait des fameux pneus 4 saisons où on passait l'année
des 4 saisons. C'est ça. Bien, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des pneus d'hiver, qui gardent même l'été. Surtout des pneus usés ou des histoires de, tu sais, faut là, t'as pas d'argent pour t'acheter des pneus d'été, fait que tu gardes des pneus d'hiver, puis etc. Fait que ça, c'est un autre problème. Mais il reste que, Moi, je trouve que c'est tard, le 1er décembre. Écoute, honnêtement, là, mais moi, j'ai fait changer, mais je vais faire changer mes pneus lundi prochain. Mais quand j'ai appelé, j'ai été surpris. Ça prenait 5 semaines avant d'avoir un rendez-vous.
Ouais.
Alors, y a-t-il une pénurie de main-d'œuvre aussi dans les changements de pneus? C'est pour ça qu'à un moment donné, comme aujourd'hui, là, il y a plein de monde qui a appelé pour changer les pneus. Là.
Oui.
Ça, c'est sûr. Là.
Oui,
c'est le signal. Là, OK, oh, ben là, je veux pas me faire pogner avec des collisions, des accidents ou quoi que ce soit. Fait. Mais là, aujourd'hui, les gens qui prennent des rendez-vous pour changer leurs pneus, j'imagine que ça prend un mois.
J'ai vu jusqu'aux périodes 20e, ouais, c'est ça, 25 novembre à peu près. C'est ce que j'ai vu tantôt là, sur une liste d'un garagiste. Fait que c'est quand même assez loin. Quelqu'un ce matin sur Spotted, qui une mère de famille qui dit « Moi, je transporte des jeunes enfants sur Spotted Val-Bélair sur Facebook. Là.
Mm-hmm.
Je prends une chance aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un aimerait changer, pourrait changer mes 4 pneus pour mettre des pneus d'hiver? » Hey, bonne chance, les amis, là. Mais peut-être qu'elle va avoir une chance. Là. Avec le visage qu'elle avait, d'après moi, un garagiste...
Mais hier je me promenais dans mon quartier, là, dans Sainte-Foy, là, puis il y avait un gars qui était en train de changer ses pneus dans sa cour.
Oh oui.
Il change les roues. Il ne change pas les pneus, il change les roues.
C'est ça.
Il garde les rings de
mais
de
la
roues,
sac, là. Est-ce qu'ils prennent en considération quand il y a un accident, là? Puis la personne a les pneus usés à la fesse, puis on est au mois de janvier. La SAC, prends-tu considération de ça? La police peut prendre considération comme quoi, là, c'est de la négligence criminelle. Dans le cas où on tue quelqu'un...
Ben ouais, c'est ça. Si on tue quelqu'un. C'est sûr que si le fait de ne pas respecter un règlement ou une loi, le Code de la sécurité routière, ou un règlement qui prévoit que tu as une date pour changer tes pneus, ça ne veut pas dire nécessairement que tu es en négligence criminelle. Mais tu sais, ça dépend de ton comportement au moment où ça survient. Si tu te promènes puis il y a de la glace partout, tu te promènes avec tes pneus d'été à une vitesse excessive, compte tenu que tu es mal chaussé, là, ça pourrait être de la négligence criminelle, mais il n'y a pas de... De toute façon, si tu te blesses, la SAC va te payer pareil, là. Tristement, mais la SAC va te payer pareil. Mais il n'y a pas... C'est pas parce que tu te promènes avec des pneus d'été au mois de janvier que nécessairement tu vas avoir des accusations criminelles, mais tu vas pogner une étiquette.
Il y en a qui peuvent avoir des dérogations. Ceux qui arrivent des États-Unis,
ouais,
par exemple,
ben oui, y a des règles,
en
y a...
plein hiver, ben au Québec, ils peuvent avoir une dérogation de quoi, mettons, 24 heures, 48
heures. Je pense que c'est une journée ou deux, effectivement.
Puis le contrat se fait aussi.
Oui, le contrat se fait aussi. Si tu quittes pour la Floride, là, tu as le droit d'avoir des pneus d'été.
OK. Mais vous faites un accident en Ontario ou vous faites un accident aux États-Unis, est-ce que c'est la SAC qui s'occupe de vous quand même?
Oui.
Ah oui?
Tous les Québécois sont couverts partout dans le monde. Maintenant, tu n'es pas couvert pour les dommages que tu causes aux autres. Là. Si, par exemple, tu blesses quelqu'un en Floride, puis tu es responsable de l'accident, tu peux être poursuivi par l'Américain en Floride parce que l'accident n'est pas survenu au Québec. Mais si tu blesses un gars de la Floride au Québec dans un accident, il n'y a pas de recours pour personne. Puis tout le monde a droit à des indemnités.
OK, mais est-ce que, je sais pas, moi, le résident des États-Unis que j'ai blessé ici a des recours contre moi? Donc, il poursuit la SAC, dans le fond?
Il va réclamer à la SAC dans la mesure où il n'est pas responsable de l'accident, au Québec.
OK.
Parce que lui, il ne cotise pas au régime. Mais s'il vient ici puis qu'il fait un accident qui est chaud, il ne sera pas payé pour ses propres dommages.
OK.
Mais il n'y aura aucune poursuite possible, même si c'est un Américain qui blesse un Québécois en sol québécois. Si l'accident survient ici, il n'y en a pas de recours possible devant un tribunal civil. Tu te souviens-tu, il n'y a pas tellement... Bien, il n'y a pas tellement longtemps. Peut-être une dizaine d'années, sur la rive sud de Québec, probablement à la hauteur de Montmagny, dans ce coin-là, il y a des travaux routiers et il y a des autos immobilisées. Puis il y a un gars de l'île du Prince-Édouard qui arrive en fou. Il n'y a pas de break sur son truck. Puis il a tué pas mal de monde. Ça doit faire 10-15 ans. Lui, il est de l'île du Prince-Édouard. Il n'y a pas de recours contre lui, même si ce n'est pas un résident québécois. Lui, il n'a pas été payé pour ses propres blessures, mais les Québécois l'ont été, mais les Québécois n'ont pas pu le poursuivre, même si ce n'est pas un résident du Québec, parce que l'accident est survenu ici. Un gars de l'île du Prince-Édouard, un gros truck, là, pas de break, envoyé par là, il a foncé, il a tué, je pense, c'est 4 personnes.
Et dans le cas où je fais un accident aux États-Unis, puis c'est un Américain qui me blesse, est-ce que je peux poursuivre aux États-Unis l'Américain?
Oui.
OK.
Oui, j'ai des clients, moi, qui se sont blessés en Europe, aux États-Unis. Ils bénéficient de la SAC jusqu'à concurrence d'un certain montant, dans la mesure où la loi le prévoit. Mais pour la différence, ils peuvent poursuivre les Américains ou les gens qui ont causé des dommages, qui sont des non-Québécois, en dehors du Québec. En autant que l'accident survient ailleurs, tu as des recours selon les lois, parce que c'est la loi du lieu de l'accident qui s'applique. Mais au Québec, aucun recours. Même deux Américains qui se blessent au Québec, pas de recours un contre l'autre.
Il va-t-il y avoir une refonte à un moment donné de tout ça?
J'aimerais bien qu'il y en ait une. Ça fait longtemps qu'on le demande, parce que soit la loi est entrée en vigueur le 1er mars 1978, ça fait 45 ans.
Avec la paillette.
Avec la paillette. À ce moment-là, il y a eu des débats en commission parlementaire. Lise Payette, c'est pas d'hier, 45 ans. Là, le Parti québécois, René Lévesque venait d'être élu depuis 2 ans. Mais on n'a jamais eu de consultation générale sur cette loi-là, sur l'ensemble des principes de l'assurance automobile au Québec. On a l'impression que le gouvernement ne veut pas toucher à ça, parce qu'il a peur d'avoir des critiques. Il a peur que les gens disent « ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure », puis d'être obligé d'expliquer ça. Fait qu'il aime autant pas grouiller, puis il laisse aller ça comme ça. Mais c'est des aberrations qui se perpétuent, malheureusement,
parce que
dans
ça
notre
peut,
système.
Ça peut nous coûter une fortune. Dans certains cas, c'est très justifié, des gens qui ont été victimes de la route, mais de l'autre côté, moi, quelqu'un qui est complètement saoul, qui tue des gens puis qui se blessent, ben oui, nécessairement, on dédommage la famille des individus qui ont été tués, mais lui, là, qui a pris de la boisson, qui a pris le volant, qui a tué des gens, on ne peut pas croire que s'il se blesse, on va payer pour lui jusqu'à la fin de ses jours.
On paye même en prison.
C'est fait comme ça. Ouais.
On paye même en prison, c'est ça. Il est en prison, il est en incapacité.
Qui pourrait être contre ça, M. Bellemare? Tu sais, quand vous dites que les politiciens sont un peu hésitants, qui pourrait être contre ça?
Personne ne pourrait être contre ça, mais le gouvernement ne veut pas toucher à ça parce qu'il a peur qu'il soit obligé de changer tellement de choses que le régime, le modèle québécois s'effondrerait probablement.
Non, mais
moi, j'ai l'impression que c'est ça au plan politique. Là.
Tu sais, moi, j'ai pas de problème à parler du modèle québécois, là, mais il y a ce modèle-là là, qui est si formidable pour certains, as-tu déjà été copié ailleurs?
Bien, le Manitoba a un régime d'assurance automobile publique aussi depuis 1994. Donc, nous autres, c'est en 78, ça a pris quand même 16 ans avant qu'il y ait une autre province canadienne qui ait un régime d'assurance automobile. Mais là-bas, si tu es en boisson au moment où tu te blesses en automobile, tu n'es pas payé pour ton remplacement de revenus pendant 1 an.
Ce qui est logique, là.
Tu vas être payé à partir de la 2e année. Ça veut dire, si tu as des grosses blessures, là, puis tu n'es vraiment pas capable de travailler pendant plus qu'un an, ça veut dire que tu es vraiment amoché. Là, on va commencer à te payer à partir de la 2e année, mais il y a au moins un signal, une conséquence.
Ben oui, c'est ça.
Tu es impacté, conséquence. Et si, par exemple, la loi est bien faite au Manitoba, si, par exemple, tu es blessé, mais tu es impacté, mais en même temps, il y a une tempête de neige où il y a une raison pour laquelle l'accident est arrivé. Donc, c'est 50 % la boisson, puis 50 % c'est pas une mauvaise signalisation routière, t'sais, une curve qui n'est pas annoncée, quelque chose. Alors, à ce moment-là, c'est 50 % de ton salaire dont tu vas être privé pendant 1 an. Puis on va te payer l'autre 50 % pour lequel tu n'es pas responsable parce qu'il y a une autre cause que la boisson ou la drogue.
Puis le même cas arrive ici, la personne fait, je sais pas, une sentence provinciale, fait qu'il est 2 ans moins 1 jour, il va être payé pendant 2 ans.
Il va être payé à partir du 8e jour, comme toutes les victimes d'accidents d'auto. Et à partir du moment où il y a un jugement qui dit que tu es incarcéré, là, il va y avoir une baisse de son indemnité en proportion du nombre d'enfants qu'il y a. Il y a une espèce de calcul qui se fait dans la loi là, qui fait que pendant que tu es incarcéré, tu reçois moins, mais tu reçois quand même quelque chose. C'est déjà trop, tu sais. Alors, tout le temps que tu es incarcéré, tu reçois des indemnités. Fait que tu es payé par l'État à travers les prisons, les pénitenciers, puis en même temps, tu reçois un chèque de la SAC. Alors que tu n'as pas de dépenses en réalité parce que tu es logé, nourri, blanchi pendant tout le temps que tu es incarcéré. Et même formé, parce que tu peux suivre des cours en dedans. Puis des psychologues, tu n'as pas de misère à en avoir en prison. Là. Nous autres, on a de la misère sur le terrain, là, mais eux autres, en prison, ils n'ont pas de problème de psychologue. Ils n'attendent pas 1 an et demi avant d'être traités.
Oui, ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Le père qui avait vu
l'agacé,
sa famille être
la victime de l'agacé là, ouais. Sur l'autoroute Dufresne. Là.
Sur Dufresne Montmorency.
Ouais, ça faisait 6 mois qu'il cherchait un psychologue, puis il n'en trouvait pas. Puis moi,
juste faire un appel à tous, là. On appelle la population. Connaissez-vous un psychologue pour aider cet homme-là?
C'est ça. Ben moi, écoute, je suis sollicité terriblement au bureau. Des victimes d'accidents qui m'appellent. M. Bellemare, j'ai besoin d'un psychologue. J'ai vu après-midi 2 femmes de Matane. Prescription pour un psychologue. Pas capable de trouver un psychologue entre Rimouski et Saint-Anne-des-Monts. Je te dis, c'est pitoyable. Il n'y en a pas. Quelques-uns qui sont débordés, mais ils n'ont pas de ressources. T'sais, nous autres, à Québec, on est quand même assez chanceux parce qu'on n'est pas trop loin de la... Je pense qu'on a la meilleure accessibilité, peut-être même mieux qu'à Montréal.
Mais c'est quand même six mois d'attente. Là, ce qu'on entend sur les listes là, pour le public, là, ce serait minimum six mois. Puis j'ai entendu jusqu'à 14-15 mois. Quand on a un problème, c'est un problème qu'on a là maintenant, pas dans six mois. Puis pour ce qui est du privé, c'est un genre de 3-4 mois d'attente.
Oui, c'est ça. Puis tu payes des frais qui peuvent aller jusqu'à 150$. Là, Montréal, c'est quasiment la norme. À Québec, c'est peut-être 125-130 pour un psychologue. Mais avec la pandémie, là, tout le monde s'est rué chez les psychologues pour... bon, ça n'allait pas bien dans la tête de bien des gens. Mais il y a peut-être des gens qui ont continué de voir des psys pendant ce temps-là puis qui ont les moyens de payer. Mais en même temps, tu sais, des véritables victimes d'accidents, là, ils sont pas capables de trouver des psychologues. Là.
Puis est-ce que c'est au coût de la SAC ou c'est le psychologue charge son propre prix à lui? Supposons que le psychologue est à 150$.
La SST paye, je pense, c'est 94$. Pour un traitement.
Mais il n'y a pas un psychologue qui cherche ça.
C'est ça. Ils sont tous à plus 130. Que ça. Fait que souvent, il faut que tu débourses la différence.
En plus.
Par rapport à ce que le gouvernement paye. Puis il y a beaucoup de psychologues qui sont gênés de demander un excédent. Fait qu'ils vont carrément refuser de faire des traitements pour des accidentés. Parce que là, le problème, c'est que moi, c'est ce que j'explique à mes clients. Toi, t'es accidenté de la route, là, t'es pogné avec la SAC, là. T'es pogné avec les fonctionnaires de la SAC, qui t'écœurent, qui t'achalent. T'es pogné pour envoyer des papiers. T'es pogné pour envoyer des dossiers trois puis quatre fois parce qu'ils perdent tout le temps les papiers. Fait que t'es souvent obligé d'envoyer des copies, des copies, des copies. Mais le psychologue, lui, il est pas obligé de travailler avec ces fonctionnaires-là. Là. Tu sais, le psychologue, lui, là, il a le choix entre une madame, je sais pas moi, qui est triste parce que son conjoint est mort, ou bien qui a eu un bébé puis a de la misère avec le bébé, ou un monsieur qui a un cancer ou quoi que ce soit. Lui, il ne demande pas de papier puis de rapport tout le temps, puis il ne reçoit pas de téléphone de fonctionnaires qui disent « Mais là, c'est donc bien long, les traitements, là, t'sais. » Alors, le psychologue, il aime mieux avoir quelqu'un qui est sans histoire, puis qui paye les traitements, puis qui paye sans problème, là, que, plutôt que d'avoir un gars qui est sur la SAC, puis de faire face aux fonctionnaires, puis de répondre à 56 téléphones. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé, même des médecins qui ne veulent pas rien savoir de la CSST, qui ne reçoivent plus d'accidentés.
C'est bien fait
parce
pareil.
Que c'est trop de paperasse.
C'est bien fait pareil, M. Belmont.
Tout ça est monté. Je ne dis pas que c'est intentionnel, qu'on a monté un système pour le rendre tellement rébarbatif puis tellement répugnant que les professionnels de la santé ne veulent plus faire affaire avec. Mais moi, je m'aperçois avec le temps, puis ça fait quand même 45 ans que je travaille avec les victimes d'accidents, puis je m'aperçois avec le temps qu'il y a de plus en plus de professionnels qui ne veulent pas avoir des accidentés dans leur filière parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à la bureaucratie.
Ils ne disent pas clairement comme ça.
Ils ne diront pas clairement. Ou bien ils vont dire, ben moi j'en prends 50 dans mon bureau, là. J'ai 2000 patients. Je prends 50 dossiers d'accident, pas plus, parce qu'ils prennent 7-8 fois plus de temps que les autres. D'abord, ils prennent plus de temps dans le bureau pour expliquer leur problème. Ensuite, ils demandent plus de temps parce que ça prend des papiers à remplir. Ensuite, il y a des rebounds parce que quand le patient part, il y a des fonctionnaires qui appellent puis qui demandent des papiers, puis ils reçoivent des formulaires, puis ça finit plus. Fait que s'ils sont écœurés, fait qu'ils en prennent une certaine quantité, mais ils peuvent pas faire 2000 dossiers d'accidentés, ils n'auront pas jamais le temps de faire ça.
Non, on parle de la SAC, là, mais mettons, parlons du modèle québécois. Moi, je pensais, parce qu'on s'est jasé, fait longtemps qu'on fait des chroniques ensemble, Maître Belmont. On se parlait à quel point c'était complexe la justice, à quel point c'était des documents n'en plus finir,
tout le temps,
à quel point ça pouvait être compliqué. Des fois, c'était des causes qui étaient remises. On demandait à des gens, moi, je sais pas, de la Gaspésie de descendre à Québec. Puis avec la pandémie, ben, on a comme utilisé une autre façon de faire qui faisait en sorte qu'un gars comme vous pouvait avoir une cause en Gaspésie. Puis être avec le juge sur Internet, les avocats étaient là, les clients, vos clients étaient là, puis tout fonctionnait bien. T'sais, on a essayé de simplifier les choses. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'a pas réussi à rattraper tous ces retards-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que la machine est si lourde qu'on n'est pas capable de revenir à ce qu'on avait pendant la pandémie? Il me semble que ça n'allait pas si mal.
Oui, on avait compris, le monde judiciaire, juridique avait compris que dans notre domaine à nous, là, où il y a beaucoup de papiers, on pouvait fonctionner par Teams puis par Zoom. Puis on a fait ça pendant la période de pandémie, je dirais de 2020 à 2022. Mais là, il y a comme un retour à certains réflexes de faire ça en salle.
Est-ce que c'est les juges qui veulent avoir une vraie salle de cours?
Les juges aiment mieux avoir des gens dans la salle, puis de régler le dossier en salle, puis de voir les gens s'exprimer puis témoigner. J'ai eu un cas il y a à peu près un mois en cour supérieure. C'est une avocate de Montréal qui présente un recours Moi, je défendais la victime d'harcèlement psychologique. La CNESST était là. On était trois avocats, dont une de Montréal. Pas de témoins, juste des plaidoiries. Puis le juge a insisté pour qu'on soit en salle, à Québec. Moi, je me suis déplacé, je monte la côte, je suis rendu. C'est ouais. pas si pire, tu sais.
Mais pour elle, il faut qu'elle descende.
Mais elle l'a su la veille. Fait qu'il a fallu qu'elle se tape la raide à Québec, après ça, qu'elle retourne là-bas. C'est des inconvénients, puis c'est des coûts. Fait que quand on parle de coûts d'accessibilité à la justice, moi, je me dis, tout ce qu'on peut faire par Zoom, on peut le faire par Zoom, on va sauver du temps.
Ouais. Est-ce que le ministre...
On va sauver de l'argent aussi, parce que nous, on peut dire à nos clients, mais écoute, ça va se faire par Zoom, c'est moins cher. Tu comprends-tu? Tu peux faire un rabais à ton client si tu n'as pas à te déplacer. Mais si tu as tapé la raid à Joliette puis à Roberval, pas le même prix, là.
Ah non, supposons que les causes sont remises. L'autre a fait Montréal, Québec, il reste 15 minutes, puis bon, ben c'est remis. Il faut qu'elle retourne à Montréal. C'est, ben ouais. c'est complexe. Mais est-ce que le ministre de la Justice, je ne sais pas moi, que ce soit au fédéral ou au provincial, peut avoir un impact sur comment sont présidées les cours, comment ça doit
ben,
se faire?
Le ministre de la Justice, lui, je pense qu'il souhaite que ce soit le plus efficace possible. Mais fondamentalement, chaque tribunal a ses règles et chaque juge a ses règles aussi. C'est certain que si un juge décide, peu importe la cour, peu importe le tribunal, si le juge décide, lui, qu'il veut avoir du présentiel, qui veut entendre les avocats en personne, qui veut les voir agir, plaider, argumenter, qui pense que c'est plus simple comme ça, puis lui, la technologie, ça l'écœure, puis il y a peur qu'il y ait des bugs, etc., ou il y a des témoins à entendre, puis il veut les voir témoigner, puis les entendre témoigner, c'est difficile de dire non. C'est pas toi qui mène, c'est le juge qui décide. Le juge décide de ce qui se passe dans sa cour. Alors, bon, qu'est-ce que je te dis? Il y a des fois qu'on souhaite que ça soit en virtuel. Nous autres, au bureau, à peu près systématiquement, on écrit au tribunal pour demander que ça se passe en virtuel, par Zoom, par Teams, parce qu'on sauve du temps puis on sauve de l'argent pour notre client. Mais ça nous est souvent refusé de plus en plus. Il y a comme un retour à la salle de cour traditionnelle. Okay. Ce réflexe de tout faire dans le bocal, comme on dit.
Okay,
moi, je le déplore, mais c'est pas moi qui décide.
Non, c'est ça. Mais on parle pour parler parce que les auditeurs m'écrivent, c'est toujours intéressant avec Maître Marc Belbon, on apprend des choses. T'sais. Puis moi, j'adore quand vous êtes là avec nous autres parce que les auditeurs peuvent vous poser des questions, moi, je peux vous poser des questions. Mais est-ce que le juge a un avantage? Le juge, est-tu payé à l'heure? Est-tu payé à la semaine? Est-tu payé à l'année? Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs causes. Ça peut-tu être plus payant pour lui? Donc, nécessairement, il permettrait...
Non, je pense pas que ce soit un enjeu financier. Il y a un enjeu financier pour les parties, pour les avocats, pour les témoins.
Ouais.
Il n'y a pas vraiment d'enjeu financier pour le juge.
Fait que lui, juge... plus vite ou moins vite, il est payé pareil.
Oui, oui, ça ne change rien au niveau du juge. Il n'est pas payé au nombre de jugements qu'il rend et au nombre de causes qu'il entend. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des indices de performance devant les tribunaux, surtout les tribunaux administratifs comme le tribunal administratif du Québec.
Ouais.
J'imagine que si tu entends trois causes par année, tu vas te le faire dire par le boss, là, parce qu'à un moment, il y a des éléments de performance qu'il faut respecter. Puis il y a des juges qui sont plus rapides que d'autres, etc. Puis il y a aussi des juges qui entendent des causes plus compliquées, puis bon, ça prend plus de temps, c'est normal. Mais ça change rien, ça change quelque chose pour le contribuable, pour le justiciable. Moi, j'ai eu une cause cet été, là, qui s'est passée à Sainte-Anne-des-Monts. Je me suis tapé, je pense que c'était le 22 août. Puis j'ai écrit une semaine avant, puis j'ai demandé, l'avocate de la CNESST était d'accord pour que ça se passe au tribunal administratif du travail.
C'est un homme à charge.
C'est une femme de Gaspé. La juge de Gaspé qui descendait à Sainte-Anne-des-Monts. J'ai écrit la semaine d'avant, j'ai dit j'aimerais ça que ça soit virtuel. Ma cliente aurait été à Sainte-Anne-des-Monts parce qu'elle demeurait là. Moi, j'étais à Québec. L'autre était à quelque part comme à Montréal. Puis la juge était à Gaspé. Je me suis dit c'est un beau cas pour faire du virtuel. La juge a refusé en disant vous avez pris le mandat. Aller au bout du mandat, mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai pris un mandat, que je me déplace ou pas, là, incidemment. Mais elle disait, puis c'est important qu'on voit, il y a des éléments psychologiques dans le dossier parce qu'elle a fait une dépression. Le juge dit, c'est important qu'on voit la victime témoigner puis qu'on puisse sentir son témoignage. Bon. Si je me dis en quelque part que ça peut peut-être aider à ma cause parce que ma cliente va peut-être être plus convaincante, entre guillemets, plus explicite, dans son témoignage, un dépressif, ça ne témoigne pas comme quelqu'un qui n'a pas de dépression, c'est bien clair. Alors peut-être que c'est plus facile de communiquer cette détresse-là en personne que par un écran. J'ai fait la raide, puis j'attends le jugement. Mais tu sais, je pense qu'on aurait pu procéder par voie virtuelle. On aurait sauvé beaucoup de coûts, beaucoup de temps pour tout le monde.
Ouais, pour ce qui est des juges administratifs, je pense qu'il devrait avoir un avantage financier à ce que les juges permettent qu'il y ait des causes en virtuel plus souvent qu'autrement. Ça fait sauver de l'argent à tout le monde. Le contribuable sauve de l'argent, puis le juge est bien content.
Le plus possible. Ben, on pousse dans ce sens-là, mais évidemment...
Les gaz à effet de serre, mais de belle mort.
Oui, aussi, bien sûr. La fatigue, le temps qu'on passe là-dedans, l'automobile, parce qu'on est tout seul dans nos chars. Bon. Il y avait quand même un, deux, trois. Ma cliente était sur place, mais tu sais, je me dis, c'est beaucoup de coûts, c'est beaucoup de temps. Puis en même temps, si on fait ça virtuel, peut-être que Mme la juge peut entendre deux ou peut-être même trois causes dans Exactement. Le même temps qu'elle va mettre pour un dossier. Alors, c'est ça. C'est les tribunaux, fondamentalement.
Parce que tout le monde se
plaint.
C'est le
public, hein?
Tout le monde se plaint que c'est long. Les gens qui sont dans l'administration de la justice se plaint que c'est long, mais ils continuent à refaire toujours les mêmes erreurs. En espérant qu'un jour, ça s'arrange.
Ouais.
Mais faire toujours la même chose, en espérant un résultat différent, c'est pas ça la folie.
On est parti du virtuel pendant 2 ans qu'on faisait mur à mur. Oui, là, on revient dans le présentiel, mais à un moment donné, je pense que ça va arrêter. Puis je pense qu'on va continuer de garder du virtuel en matière de justice. Puis je le souhaite beaucoup. Je pense pas qu'on retourne à ce que c'était avant 2020, avec du présentiel dans tous les cas. Mais je te dirais que je suis un petit peu inquiet de voir qu'il y a un retour graduel au présentiel dans bien des cas, sans nécessairement que ça soit requis, à mon humble avis. Parce que moi, je suis une partie. Là. Je représente une victime, je représente, je suis pas le juge, puis je parle pas pour tout le monde, mais pour moi, je trouve que c'était des bonnes années quand même en termes d'efficacité du système de justice quand on était en virtuel. On était efficace, on avait appris à travailler... puis à être partout, puis un avocat à Robertval, un avocat à Québec, un juge à Montréal, un juge à Québec, puis ça marchait à 1h30, été comme hiver, puis l'affaire se réglait, puis il y en a un autre après ça, tu sais.
Exact. Ça vous tenterait pas d'aller en politique pour essayer de changer les choses
de maintenant? Mais là, moi, je pourrais être ton chef de cabinet.
Vous seriez bon, ministre de la Justice. Vous l'avez déjà essayé, ça marche.
Toi, tu serais, Yannick, le ministre de l'efficacité.
Non. Moi, je me ferais castrer.
Parce que
c'est clair que je me ferais castrer après 2 semaines comme ministre.
Et moi, là,
la machine voudrait me castrer de l'intérieur.
Un ministère de l'efficacité.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Le ministre de l'efficacité, sa job, c'est de botter le cul aux autres.
Ouais.
C'est trop long, ta patente. La santé, l'éducation, la justice, ça prend trop de temps. Un ministre d'efficacité, un père fouetteur au Conseil des ministres.
Je tatchériserai mon mandat. Je me lance en politique, mais juste pour 4 ans, puis j'anéantis tout ce qui est un problème pour la société.
Ouais.
Ouais. Mais là, je me ferais pas réélire parce que là, des décisions que je prendrais, que la population serait pas super contente. Mais peut-être que, comme c'est arrivé à Mme Thatcher, on va s'en rendre compte par la suite, tout le bien qu'elle a fait. Peut-être que ce sera moi, qui sait. Mais je pense que j'ai plus confiance en vous qu'en moi. Hey, on change totalement de sujet.
Ouais.
Bon, là, on veut pas créer de problème de couple, Maître Bellemare, mais okay. Ça se peut qu'on en crée. Est-ce qu'on est responsable des dettes de notre conjointe ou de notre conjoint?
Bon, il y a un petit article dans le Journal de Québec d'aujourd'hui. Je suis un peu copieux à soir, là, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, pour reprendre un petit peu ce qui est dit dans le document, qui est conforme à la loi, dans un couple, là, le gars est responsable de ses dettes, puis la fille est responsable de ses dettes.
Au départ, c'est ça.
On est tous responsables de nos dettes. Le problème, c'est dans le fait de cautionner le conjoint ou d'avoir des comptes conjoints. C'est sûr que si tu as une carte de crédit conjointe,
faites partie de la génération des comptes conjoints, là.
Moi, j'ai jamais eu de compte conjoint avec personne. Là.
Jamais?
Jamais. Okay. J'ai eu mon compte, elle avait son compte, c'était correct.
Parce que moi, on me disait que la génération qui était avant moi, c'était un compte en banque pour 2 personnes.
Non.
Puis avec le temps, il y a eu des petites séparations qu'il y a eu avec le temps. Là. Mm-hmm. Puis là, ben, il y en a qui partaient avec le compte.
Des petites puis des grosses.
Ah oh, oui, c'est ça. Des...
Non, mais le danger, c'est un compte conjoint. Puis qu'à un moment donné, je sais pas, moi, tu as une carte de crédit conjointe et qu'il y a 20 000 $ de crédit possible sur le compte, puis toi, tu mets 2 000 $ mais elle met 8 000 parce qu'elle fait des gros achats. Puis qu'à un moment donné, elle n'est plus capable de payer ou qu'elle décide de ne plus payer ou peu importe, elle est malade ou elle décide qu'elle ne paye plus.
Tu es responsable.
Bien, toi, tu es responsable de l'ensemble de la carte. Si elle décède ou devient incapable de fonctionner, la compagnie Visa ou bon le crédit, elle va dire, écoute, vous nous devez tant, puis on va vous saisir si vous ne payez pas. Fait que les deux sont responsables parce que c'est comme un emprunt. On appelle ça du crédit variable, une carte de crédit. C'est un emprunt, mais c'est un emprunt successif, des petits achats. On appelle ça du crédit variable. Donc, tout le monde qui a la carte est responsable de tout le monde. Même chose si tu cautionnes. Souvent, ça va être une automobile. Tu as une automobile, ta blonde s'achète une automobile, son crédit est moins bon. Alors, toi, tu dis, moi, je vais endosser ton prêt.
On le fait pour nos enfants.
Ça coûte 25 000. On peut le faire pour nos enfants. On le fait pour n'importe qui. Mais un endosseur, une caution, est responsable de la dette en totalité si l'emprunteur principal ne paye pas. Ça va aussi dans un couple. Donc, si tu n'endosses pas les dettes du conjoint, si tu n'as pas des comptes conjoints avec le conjoint, ben à ce moment-là, il n'y a pas de problème de dette. Tu n'es pas obligé de payer pour ses dettes. Alors, c'est l'autre personne qui paye pour ses dettes et chacun est responsable des engagements financiers qu'il prend.
Comment ça fonctionne avec le prêt hypothécaire? On a un compte conjoint avec le prêt hypothécaire.
Un prêt hypothécaire, si tu as un compte, un emprunt hypothécaire conjoint pour une maison qui appartient aux deux en copropriété, puis il y en a un qui ne paye pas, bien là, l'autre est responsable de l'ensemble de la dette. Sans ça, bien, le créancier peut décider. La banque dit, bien là, vous ne payez pas, donc elle va chercher l'argent dans la poche de celui ou de celle qui en a le plus et qui doit payer pour les autres. Alors, à ce moment-là, si tu payes toute la dette puis que c'est une dette conjointe, tu as le droit de poursuivre l'autre conjoint pour la somme qui n'aura pas été payée puis que tu auras payé en totalité. Mais là, bonne chance pour aller chercher l'argent, parce que si la banque n'est pas capable d'aller chercher l'argent chez l'autre conjoint, bien, peut-être que toi, tu ne seras jamais capable non plus.
Non, c'est ça. C'est ça. Dans des dossiers aussi de logement, là, où deux personnes signent pour le bail, malheureusement, la vie fait en sorte que la personne qu'on a rencontrée, ça se peut que ça soit pas celle qu'on pensait, puis elle décide de quitter. Complètement irresponsable, décide de quitter, puis ne plus payer sa part du loyer. On est responsable. On doit payer l'autre part du loyer parce que sinon, on va être amputé sur notre crédit.
Si tu veux pas de problème, là, les copropriétés, moi, je trouve que c'est une plaie. Là. En affaires, c'est une plaie. En couple, c'est une plaie aussi. Alors, si tu achètes tous les meubles de la chambre à coucher puis que ta blonde achète tous les meubles de la salle à dîner, c'est plus brillant que de tout acheter conjointement.
Ça, c'est...
Je te le dis parce que si tu te sépares, tu prends ta pièce, puis l'autre prend sa pièce, puis c'est réglé. Chacun votre char. Les copropriétés, moi, je trouve que c'est une plaie parce que quand ça se met à mal aller, là, il faut que tu fasses un partage. Puis ça, c'est de la grosse cochonnerie.
Il y en a toujours un qui est, ou une qui est perdant dans l'aventure, mais ça, j'ai eu quatre vrais couples là, dans la vie. J'ai habité avec quatre femmes. J'ai toujours fait ça. On achète, ben moi j'achète le salon, exemple, toi t'achètes la chambre à coucher, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Puis c'est bizarre au départ, c'est toujours moi qui étais initiateur de ça, parce que ça. Puis là ils nous regardent en disant, ben là,
tu me fais pas confiance.
Tu me fais pas confiance.
Tu m'aimes pas.
Exactement.
Ben c'est ça. Donc on se sépare, je pars avec mon lit, puis toi tu pars avec ton évier.
Hey, des chums, j'ai des chums autour de moi qui se sont fait lessiver, là.
Non, mais c'est un problème de partager. T'as une facture pour les deux.
Mais des chums, c'est à qui, là? Lessivés. J'ai un de mes chums. Il travaille sur Pierre Bertrand. Je le salue, soit dit en passant. Je sais qu'il nous écoute une fois de temps en temps. Il y a un entrepôt en arrière dans son magasin. Il a dû payer pendant une affaire comme un an. Il a épousé une femme. Puis ils ont adopté ensemble un chat. Mais pendant un an, il a réclamé une pension alimentaire pour le chat. Et ça a été accepté par le juge. C'est un genre de 14-15 piastres par mois. Donc, vous comprendrez que nous, on le
niaise avec ça. C'est d'indépense.
Mais c'était d'indépense. Tu sais, il y en a qui se font avoir un peu dans l'aventure, on va se le dire.
Bien, la copropriété, c'est un petit peu ça. Tu achètes tout en même temps, tout le monde, tout sur le même compte. Puis à un moment donné, quand c'est le temps de se séparer ou quand ça va moins bien, des fois, c'est pas une séparation parce que ça va pas bien dans le couple. Il peut y avoir une maladie à un moment donné. Il peut y avoir un décès aussi. Parce que si tu décèdes, là, tes héritiers, eux autres, ils vont vouloir réclamer ta part du gâteau. Fait que là, OK, ça vaut combien? Puis là, ils s'entendent pas sur le prix. Puis c'est des négociations. Puis souvent, ça laisse un goût amer, ces négociations-là. Parce qu'au bout de la ligne, tout le monde finit par s'entendre.
Ouais.
Ou bien non, c'est un juge qui va trancher la valeur, combien on donne à un, combien on donne à l'autre. Mais on sort souvent aigri et détruit par ce genre de négociations-là. Puis souvent, c'est les relations humaines qui font en sorte que les gens ne se parlent plus.
Oui, puis tu sais, il y a un vieux sage qui m'avait dit un conseil à un moment donné, puis je l'ai écouté, m'avait dit « Yann, règle tes affaires quand ça va bien. » Parce que quand ça va mal, tu ne pourras plus rien régler. » puis c'est ce qu'on avait fait, nous autres. Puis c'était, c'était bizarre, mais on avait été chez le notaire, puis on avait tout réglé nos affaires. Puis quand il y a eu la séparation, qu'on n'avait pas prévu à ce moment-là, bien entendu, mais ça a été très, très simple, la séparation. Il n'y a pas eu de douleur, pas eu de cris, pas eu de chicane, rien. Tout était réglé d'avance.
Merci, vieux sage.
Ben oui,
c'est un vieux sage. S'il est à l'écoute.
Ah oui, il est à l'écoute.
Merci, vieux sage.
Mal persuadé.
Pas vieux singe, le vieux sage. Ça revient peut-être au même, je ne le connais pas.
Ça dépend de 6 heures. 6h34 minutes, vous avez des questions pour Maître Marc Bellemare, parce qu'à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Marc Bellemare. Des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST. Communiquez avec moi maintenant par texto 88-971-1021. On vient.
Marceau, le soir. Le soir.
102-1.
Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock.
Måneskin, honey, are you coming?
Consultez notre sélection musicale et votez pour les nouveautés et les radars au blvd.fm ou sur l'application mobile.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Beneva, c'est plus qu'une référence en assurance entreprise. C'est aussi du bien bon monde. Comme Dave qui a rappelé son client superstitieux à 11h11 pour lui faire plaisir.
Ça, c'est gentil!
Comme Eve qui le dit pas qu'elle est végane à son client qui une boucherie.
C'est très gentil.
Comme Carl, qui, malgré sa diète, écoute sa cliente pâtissière lui parler de choux à la crème.
Ça, c'est gentil, Rome.
Bref, avec du bon monde de même, votre entreprise est bien assurée.
Tellement.
Pour votre assurance entreprise, comparez-nous. Ça vaut le coup. Beneva.
Voulez-vous économiser sur votre changement de pneus? Kennedy Pneus et Mécaniques vous offre une carte cadeau d'une valeur de 250 $ pour seulement 125 $ au mercado.fm. Kennedy Pneus et Mécaniques, à 15 minutes des ponts. Ça vaut le déplacement.
Les pneus, ça nous connaît.
L'hiver, si on n'est pas vacciné contre les virus respiratoires, on peut être malade, surtout si on est vulnérable. Mais si on est vacciné, l'hiver, c'est malade. Les promenades en forêt, les soupers fondus, la raquette, les feux de foyer. Alors, pour en profiter pleinement, mieux vaut se faire vacciner maintenant. Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont offerts gratuitement à toute la population. Le vaccin contre les infections à pneumocoque est également disponible. Informez-vous et prenez rendez-vous au québec.ca/campagne-vaccination. Un message du gouvernement du Québec.
Les concessionnaires services certifiés Chevrolet Buick GMC Cadillac sont la référence en matière d'entretien de véhicules. Une visite chez nous vous permet d'avoir l'esprit tranquille grâce aux recommandations de nos experts pour vos pneus d'hiver. Présentement, Service certifié vous offre la chance de gagner l'un des 20 ensembles de 4 pneus d'hiver Goodyear d'une valeur allant jusqu'à 1 200 $. Pour participer, inscrivez-vous sur scpneus.ca. Service certifié Chevrolet Buick GMC Cadillac, la référence pour vos pneus d'hiver. Gagnez avec scpneus.ca.
Dès le 2 novembre, c'est la grande vente annuelle chez Concept C, la référence en produits de coiffure professionnels. Obtenez 20% de rabais sur fer plat, séchoir, shampoing et traitement, des produits de qualité dont L'Oréal, Shuemura, T3 et Living Proof. Concept C sur la rue du Marais.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Boulevard! L'application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de short, puis même ta poche de hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
C'est les soirs avec Maître Marc Bellemare. Julien qui nous écrit avec la messagerie qui dit juste dire à Monsieur Bellemare, Maître Marc Bellemare, que je l'adore, c'est une bonne personne. Et je vous apprécie, Maître.
Ah, merci. Ça fait ma semaine.
Avez-vous remarqué que Julien ne me l'a pas dit à moi?
Ça fait ma semaine.
Ben là, c'est un bon début de semaine.
Ben toi, t'en as plein de compliments. Là,
ah oui, vous pensez ça?
Merci, Julien, de nous écouter.
Ben oui,
d'avoir merci. Cette patience et cette indulgence.
Merci d'être là. Hey, Maître Bellemare, sujet un peu plus dark, un peu plus noir ce soir, mais on n'a pas le choix d'en parler. Je vous parle d'un individu qui s'appelle Francis Leclerc Godreau, qui, lui, est pas... n'est pas sorti du bois. À savoir s'il va rester en prison longtemps, on trouve que la peine qu'on va probablement lui donner n'est pas nécessairement appropriée. On aurait aimé le voir pendant 10 ans en prison, mais malheureusement, le Québec étant ce qu'il est, et la réinsertion sociale, on est fort là-dessus. Leclerc Godreau a 29 ans.
Mm-hmm.
Et lui, il a rencontré un homme sur les réseaux sociaux qui entretenait le même fétichisme que lui.
Ouais.
Les deux gars tripaient sur des couches. Et l'autre individu que Godreau avait rencontré, c'était un pharmacien qui avait un enfant de 4 ans. Et à un moment donné, lors de la rencontre, on s'est aperçu que l'enfant de 4 ans avait été se coucher, bien entendu, et qu'il était inconscient. Donc, l'enfant est endormi. Et le père, donc le pharmacien, le père aurait donné l'autorisation à Leclerc Godreau, 29 ans, d'aller dans la chambre du petit de 4 ans, puis d'abuser du petit de 4 ans. Et c'est des remords de Francis Leclerc Godreau qui ont fait en sorte qu'il est allé voir les policiers pour lui raconter ce qui s'est passé. Il se sentait mal, il se sentait pas bien. Les policiers ont procédé à son arrestation. On procédé à l'arrestation du père de la jeune victime de 4 ans qu'on ne peut pas vous nommer parce qu'on ne peut pas identifier la victime.
Parce qu'il y a un enfant mineur.
Parce qu'il y a un enfant mineur. Mais là, on va lui donner quoi? Un genre de 3 ans à cette personne-là?
3 ans. Il a pogné 3 ans. Mais d'abord, Leclerc, c'est L-E-C-L-A-I-R. Si ça vous intéresse d'aller fouiller un petit peu les antécédents.
Francis Leclerc Godreau.
29 ans. Mais là, tu vas m'expliquer comment un gars de 29 ans peut entrer en contact avec un autre homme qui a deux fois son âge, donc 58 ou autour, et comment ils peuvent développer une relation fétichiste. C'est-à-dire, comment tu peux rencontrer quelqu'un qui a les mêmes déviances que toi, donc qui a une attirance sexuelle par rapport aux couches?
Ça
dit... tu vas marquer « j'aime les couches ».
Ouais.
Comment ça marche? Ils se rencontrent dans une forme de perversion, puis ils finissent parce qu'ils ont développé une relation fétichiste. Moi, c'est toujours ce qui me surprend. Comment on en vient à avoir des intérêts communs de cette nature-là? Première des choses. Deuxième chose, il y a un enfant de 4 ans qui dort, puis qui est abusé sexuellement. Puis là, à deux reprises, mais pas la même journée, 2018 et 2019, donc ça veut dire qu'il y a eu un abus en 2018-2019 si c'est arrivé deux fois. Donc, il a eu le temps de réfléchir en 2018, mais il n'a pas réussi à se débarrasser de sa perversion, fait qu'il a continué en 2019, fait que l'enfant avait peut-être 3 ans, puis la deuxième fois, il avait 4 ans, peu importe. Et là, on donne une peine de 3 ans, ce qui m'apparaît tout à fait correct. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ben là, C'est beaucoup, 3 ans, mais en réalité, arrêtez de penser que c'est 3 ans. Le journaliste ne le dit pas dans son reportage, mais quand tu dis que tu as pogné 3 ans, ça veut dire que tu vas faire bah, 6 mois, 1 an peut-être. Là, tu sais. À mon avis, il va sortir assez rapidement.
La bonne nouvelle, c'est qu'on nomme son nom dans les médias,
oui.
Là, Francis Leclerc Godreau.
Godreau, c'est dans la région de Montréal, c'est le Journal de Montréal qui sort ça. Mais sais-tu quoi? Ça m'a fait penser à notre député de Louis Hébert, vice-premier ministre du Québec, qui a promis en 2018 un registre des pédophiles. Parce que là, on en parle à soir là, de M. Francis Leclerc Godreau. Sauf que la semaine prochaine, là, je te mets au défi de me le nommer de mémoire. Parce qu'on oublie. Ce gars-là va faire un peu de temps. Il va sortir. Il a 29 ans. Ça. À 35 ans, il n'y a personne qui va savoir qu'il a été condamné pour un crime sexuel.
Ouais. Avec son nom dans les médias, si quelqu'un est moindrement wise, il va faire Google Francis Leclerc Godreau.
Non, mais
l'autre,
c'est
son
pas,
père. Le père
pas Jean,
de la victime.
C'est pas Jean...
Jean Tremblay.
Fillon ou ouais. Jean Tremblay ou Jean Gagnon. Là, c'est pas facile à retenir, ce nom-là. Là. Mm-hmm. C'est un nom composé. Puis Leclerc, L-A-I-R. Alors, tu sais, si tu cherches L-E-C-L-E-R-C, tu le pogneras pas. C'est là hier. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me ramène à l'importance qu'on ait au Québec un registre des pédophiles pour qu'au moins on ait un endroit où on peut retrouver l'ensemble de ces condamnés-là. Là. Puis que tu puisses aller voir la liste puis te dire « Ah, me souviens, c'est ce nom-là, ou c'est le gars avec qui j'ai travaillé, ou c'est le gars qui vient au garage, ou c'est le gars qui travaille à l'épicerie, ou c'est le gars, c'est mon deuxième voisin qui est sur la liste. On n'a pas cette chance-là au Québec. Ce qui fait que ces gens-là, même si la justice est publique, même si c'est dans le journal aujourd'hui, on va le perdre dans la brume, tu sais. Puis ça fait en sorte que ça devient des récidivistes, puis des gens qui, bien sûr, ont payé leurs dettes parce qu'ils ont fait leur temps en prison. Mais en même temps, nous, comme public, on n'est pas protégés par rapport à ces gens-là. Puis il y a 29 ans, le gars, là.
Ouais.
Il était au tiers de son espérance de vie. Là.
Journal de Québec, Journal de Montréal avait fait une map. Québec, Montréal, les autres petites villes aussi, où il y avait des délinquants sexuels qui habitaient. Puis c'était uniquement un point rouge, mais qui était non défini. Donc, on était capable d'identifier les quartiers, les rues, mais on n'était pas capable d'identifier les buildings. Puis à moins de, je dirais, un kilomètre, là, je n'avais à peu près deux ou trois à Lévis, là. À moins de 1 km de chez nous, quand j'avais regardé sur cette carte virtuelle-là, ça m'avait fait un saut. Tu sais, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais oui, le registre des délinquants sexuels devrait être public, en particulier celui des pédophiles. Mais actuellement, Maître Bellemare, la vice-première ministre cherche des causes. Là, parce que, voilà deux semaines, quand on regardait là, les intentions de vote dans sa circonscription, elle perdait sa job. Là. Et là, tout d'un coup, son vocabulaire a commencé à changer, a commencé à penser un peu comme le contribuable moyen. Elle est sortie dans les médias en disant « Bien là, on voudrait avoir les chiffres pour ce qui est du tramway, c'est tout à fait normal. L'acceptabilité sociale, c'est important. » Mais peut-être que ce serait le temps pour vous de la relancer là-dessus, parce qu'elle se cherche des causes présentement pour bien paraître, là. Elle vous avait fait une promesse avec
2018.
Avec des victimes.
Ah, puis... j'ai marché à côté d'elle. Il y avait une marche entre Cégep Garneau. Éric Duhaime était là. Il y avait six candidats de la Coalition Avenir Québec. François Paradis de Lévis était là. Comment il s'appelle, là, le député de Vanier, là, qui était malade à ce moment-là. Pas Hamelin, là, en tout cas. Sylvain Lévesque était là. Il était... six candidats dans la région de Québec. Mme Guilbeault était là, elle a pris la parole pour dire on a besoin d'un registre des pédophiles au Québec, on s'engage à le mettre sur pied, je te jure. Puis en 2019, il y a une autre marche, elle n'est pas là, on n'entend pas parler. Puis à la dernière élection, Éric Duhaime et moi, on s'est assis devant le Parlement, on a fait un point de presse pour rappeler à Mme Guilbeault son engagement d'un registre des pédophiles. Je trouve ça tellement important quand je vois des affaires sordides comme ça, là, des noms qui vont disparaître parce qu'on ne peut pas se souvenir de tous les criminels sexuels. On les voit dans le journal, on tourne la page, on continue, on dit qu'il y en a tellement. Mais on devrait avoir un endroit au Québec, sur le web, où tu peux cliquer « délinquants sexuels du Québec », DSQ, puis là, tu aurais toute la liste avec une photo, parce que là, on n'a pas de photo dans l'article du Journal de Montréal. On pourrait en avoir une photo, là.
Ouais.
Il n'y a rien qui nous empêche. On a son nom, on pourrait avoir à sa face, là.
Non, puis je l'ai cherché, honnêtement, parce que j'aime bien mettre ça sur mon Twitter puis sur mes réseaux sociaux, puis il a réussi à se cacher avant que son histoire sorte publiquement. Puis pour ce qui est des gens qui s'intéressent à cette cause-là, parce que je vous rappellerai que, oui, Francis Leclerc-Gaudreau est copé de 3 ans de prison, palais de justice, Juste de Montréal.
Laval.
Hein? C'est ça, de Laval. Le père de la victime qui avait consenti à ce que cette personne-là abuse de son fils de 4 ans, lui, va retourner en cour pour le mois prochain. Et voilà.
Ouais, parce qu'il est rendu comme un crime,
pas,
lui aussi.
Mais on ne peut pas donner son nom, parce que si on donne son nom au père de cet enfant-là, on va être capable d'identifier l'enfant.
Le petit gars, effectivement.
Donc, lui, s'en sort parce que c'est le père de cet enfant-là.
Ça, c'est ça. Lui, il n'y aura pas de publicité.
Non.
Alors,
il y avait un journaliste à Québec, j'en parle souvent parce qu'il a déjà travaillé ici à la station. Je l'ai rencontré quelques fois, un gars super sympathique, s'appelait Martin Evrel. C'est un spécial, Martin. Il avait des belles qualités. Et quand il était au palais de justice, puis il y avait des salopards de ce genre-là, il se faisait un plaisir de les filmer puis d'essayer de leur jaser, tu sais.
Ah ouais.
Puis parfois, la sentence, la réelle sentence, là, c'est quand on est capable de mettre un visage sur les crimes puis de montrer ça à ses amis, son employeur, sa conjointe, son conjoint. T'sais, on leur montre la face. Là. Fait que là, tous tes voisins sont au courant des saloperies que tu as faites.
Oui, c'est ça. Puis c'est une façon de se souvenir. Parce qu'on dit que la justice est publique. Ces procès-là sont publics. Il y a du monde dans la salle. Il n'y a pas de huis clos. La sentence est publique. L'accusation est publique. On insiste sur le fait que la justice est publique pour qu'elle soit connue des gens, que les citoyens se disent on a un bon système de justice, on a confiance dans le système de justice, on est protégé par le système judiciaire contre des abus de toute forme. Alors là, on a une condamnation. Ça nous a coûté un bras, obtenir cette condamnation-là comme société, là. Il y a des polices qui ont enquêté là-dessus, il y a des détectives, il y a des procureurs de la Couronne qui sont payés par l'État, des juges, des témoins, des palais de justice qui coûtent assez cher à entretenir. Alors, on a une peine. Mais là, on va la perdre dans le désert. C'est ça que je trouve plate. On pourrait avoir un registre avec le nom de l'individu, la photo de l'individu, la date du crime, la date du jugement, puis le type de peine qu'il a pogné pour les crimes qu'il a commis. C'est pas compliqué, ça. Tu mets ça dans 5 lignes. Alors, tu peux toutes les mettre, les criminels, peut-être pour les 20 dernières années. Ça serait notre mémoire en termes de criminalité sexuelle. Puis une façon peut-être pour les parents de se prémunir contre ce genre de personnes-là, parce que ce gars-là, je le dis, là, il a 29 ans, là, il va se promener à l'air libre pendant bien des années encore. S'il a réussi à faire ça, ça veut dire qu'il y a, une propension à répéter éventuellement ce genre de perversion-là, malheureusement.
Okay. Bon, l'historique, j'espère que personne ne va vérifier l'historique de la soirée demain matin, mais j'ai fait groupe fétichiste couche, puis il y en a plusieurs, là.
C'est vrai?
C'est assez facile à trouver. Là. C'est okay. Un auditeur, c'est Christian qui m'a dit « Regarde Yann, c'est facile à trouver sur les réseaux sociaux. » Puis j'en ai trouvé, il y en a plusieurs même. Là.
Bon.
Ah non, il n'y a pas...
non, il y a bien de la cochonnerie.
Tu sais, je comprends pas comment on peut entretenir une fixation sur les couches, Maître Bellemare. Mais, bref, c'est
on pourrait les envoyer dans le CHSLD pendant une couple de mois. Peut-être qu'ils perdraient l'intérêt.
Ouais.
C'est pas le même genre de couche.
Ouais.
C'est pas le même genre de contenu.
Non, effectivement. 6h50, avez-vous déjà été...
Mais de toute façon, toi puis moi, à 4 ans, il n'y a plus de couche, en principe. À moins que le bonhomme pharmacien n'ait pas fait sa job de le rendre propre. C'est pour ça que je te dis, c'est probablement des crimes qui ont été commis quand il avait 2 ou 3 ans, l'enfant. Je sais pas.
Ah,
parce qu'à
4
ans, il n'y a plus de couche. Là. Je peux pas croire.
Je m'en rappelle pas.
À moi qu'ils mettent une couche juste pour triper. Là.
Je sais pas. Juste de parler de ça, ça me...
Ouais.
C'est dégueulasse. Hey, Maître Bellemare, vous avez eu des enfants qui ont joué au hockey?
Oui.
Avez-vous déjà vu des coups de salaud?
Des fois dans un tournoi, oui.
Actuellement, il y a un joueur de hockey qui s'appelle Adam Johnson qui est malheureusement décédé parce qu'il a reçu un coup de patin directement à la gorge. Puis au départ, moi, j'ai entendu parler de ça en fin de semaine. Puis je me suis dit, mais tu sais, c'est un Clint Malarchuk, exemple. Tu sais, c'est un accident. Puis là, tout le monde s'entendait pour dire que c'était un accident qui s'était passé. Et là, les images ont été rendues publiques. Et le nom du joueur impliqué, qui lui est toujours en vie, mais qui va passer un sale quart d'heure dans les prochains jours, les prochaines semaines, son nom, c'est Matt Petgrave. Et là, lui, il est la cible de messages haineux sur les réseaux sociaux. Puis quand j'ai su ça, je me suis dit, je vais toujours bien aller voir.
Mm-hmm.
Des images de l'incident. Puis il y avait 2 images. La première, c'est juste l'incident. Puis l'autre, c'est vraiment le gars qui est en train de se vider de son sang. Puis ça, moi, ça ne m'intéresse pas nécessairement de voir
dégueu,
ça.
Là, ouais.
Mais le geste, Maître Bellemare, là, je vous l'ai montré un peu tantôt. Le gars semble vouloir frapper le joueur avec l'épaule, mais ça ne fonctionne pas. Et son patin gauche est dans les airs. Son patin droit est directement sur la glace. Pis c'est comme s'il donnait un sidekick au joueur directement dans la gorge. Il y a enquête actuellement et je me pose des questions à savoir s'il n'y aura pas des accusations au minimum de négligence là,
mm-hmm,
ayant causé des blessures. C'est la première fois que je voyais quelqu'un donner...
Parce que c'est un geste qui est complètement en dehors de ce à quoi on peut s'attendre même dans l'extrême sur une patinoire.
C'est ça.
Là, on est en matière criminelle. On n'est pas dans une mise en échec, un coup salaud, même un cross-checking.
Non,
on est dans un cas là, où vraiment, là, c'est une agression armée. Le patin constitue une arme.
Mais c'est ce que je vois. Puis en discutant avec d'autres joueurs de hockey, Matt Marcotte qui est à la station, nous, on n'a jamais vu ça de notre vie. Là. Un gars qui fait son karatéka sur la glace, t'sais. On le sait que c'est des patins qui sont extrêmement tranchants. On fait attention. Des fois, c'est les talons d'Achille qui écopent pour ce qui est des joueurs de hockey. Des fois, c'est les avant-bras quand les gars tombent à terre puis le patin passe proche. Il y a eu des incidents à Clint Marichuk. Puis de mémoire, il y avait eu un joueur du Canadien de Montréal, Richard Zetnik, qui avait
été
blessé.
En zone défensive à gauche, là. Je me souviens, il était sur le bord de la bande. Là,
mais puis... c'était des accidents.
Oui, oui.
Là, dans le cas de ce gars-là, j'ai hâte de voir tous les angles qui sont disponibles là, pour la vidéo, pour être capable d'évaluer ça. Mais actuellement, l'angle que je vois, là, on voit vraiment un gars qui donne délibérément un coup de patin dans la gorge de ce pauvre gars-là.
Il n'y a pas de protège-coup? Il n'y a pas de protège-coup?
Ben, rendu dans la Ligue nationale de hockey.
C'est-tu la Ligue nationale, ça?
Oui, ben, c'est du pro. Ligue, c'est du semi-pro. Pro, c'est semi-pro, là. Mais la Elite Ice Hockey League.
Oh, c'est aux États-Unis, ça, ou au Canada?
C'est aux États-Unis.
OK. Quand même. C'est terrible.
Les Panthers de Nottingham contre les Steelers de Sheffield.
OK.
Mais bref, c'est pas beau à voir. C'est un ancien joueur des Penguins de Pittsburgh qui est décédé. On lui a rendu hommage par la suite. Mais si vous êtes capable d'aller voir, je l'ai mis sur mon Twitter, Y Marceau. Là, vous allez voir, j'ai pas mis les images avec du sang. C'est pas le genre de choses qui m'intéresse, le sensationnalisme. Là. Mais juste de voir le geste du joueur, je me demande comment ils vont réussir à dire « Hey, c'est juste un accident. » Parce qu'il y a vraiment un coup qui est porté. À vitesse qu'il allait, ben ça, ce sera aux experts.
Il a peut-être voulu se rendre intéressant aussi en faisant une espèce de prouesse sur patin.
Oui, c'est ça. Je pense pas qu'il voulait le tuer, mais bref, si c'était pas ça l'objectif, c'est ce qui est arrivé. Maître Bellemare, on va terminer l'émission là-dessus. J'espère que vous avez passé une belle soirée.
Oui, ben oui, absolument.
Toujours le fun.
Ben oui, j'aime bien ça.
Les auditeurs qui participent, les auditeurs
en direct,
qui
face à face. Ben oui. On peut se parler dans le nez un peu.
Là. Exact.
Ouais.
Exact. Avez-vous des projets pour ce soir?
Les couches.
Ouais. Non. Allez-vous voir un film?
Ça va être tranquille ce soir. Il fait tellement beau, il est chaud dehors.
C'est ça. Pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, on fait quoi?
Bellemareavocat.ca.
Bellemareavocat,
ça sort tout de suite. Là.
Ben oui. C'est-tu vous qui répondez?
24 heures. Au téléphone?
Oui.
T'arrives des fois. Quand je vois une ligne qui flash, là, je saute dessus.
C'est vrai?
Ben oui. Des fois, il y a quatre lignes qui flashent. Fait que j'en prends une. Puis quand j'ai du temps, des fois, là, pouc.
Bellemareavocat.ca.
C'est beau.
Je vous souhaite de passer une belle soirée, Maître Bellemare, de même qu'aux auditeurs.
Merci,
dans
toi
les
aussi.
Prochaines minutes, ce sera les podcasts. La dernière semaine des podcasts. Donc, c'est à ne pas manquer. Puis pour les autres, ceux qui ont manqué les podcasts précédents, eh bien, vous pouvez aller sur l'application Boulevard ou directement sur le site Web. Là, puis tous les podcasts seront disponibles. Puis j'aurai le plaisir de vous jaser demain, moi, à 11h pour ce qui est de Marceau le Midi avec Pascal CV ainsi que Thomas Gauthier qui sera là. Donc, voilà, bonne soirée, puis à demain. Ciao, merci.
Salut.
Marceau le soir.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
À Boulevard, on est une gang de tripeux. Tripeux de musique, tripeux de sport.
Listen all you New Yorkers.
Donc, on t'envoie vivre le rêve dans la grosse pomme pour un rock'n pop.
La partie rock, un show de Jimmy Eat World et de Fall Out Boy.
Le côté puck, une game des Rangers.
Pis tout ça au légendaire Madison Square Garden. C'est comme gagner sa résidence à New York City, baby!
Chaque jour, reste à l'écoute et note au blvd.fm l'heure à laquelle tu entends une toune de Fall Out Boy.
Gagner ton trip pour aller les voir en spectacle et assister à une partie des Rangers à New York comprenant hébergement et transport.
Boulevard 102 et La Poutinerie, fier partenaire de tes trips de Rock and Pop.
La Poutinerie, la référence en poutine à Québec.
À la coopérative funéraire des Deux-Rives, nous offrons des carrières qui font une différence. Vous serez séduit par notre approche humaine, offrant respect et plaisir, ainsi que par nos emplois stimulants dans lesquels vous vous sentirez utile et valorisé. Car au cœur de tous nos gestes, il y a l'humain d'abord. Plusieurs postes sont actuellement disponibles, dont des emplois de brancardier et de porteur-chauffeur. Détails aux carrières avec un S coop funéraire 2 en chiffres, rive avec un S.com.
J'accepte avec fierté la direction, les commandes. Non, pas les commandes.
Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
J'accepte d'être l'entraîneur-chef des Orignaux Atomes 2B de l'école.
Mon amour, moins fort, la petite d'or.
Excuse.
Tu parles à qui?
Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
Vivez en toute quiétude, car avec l'Autorité des marchés financiers, vos dépôts d'argent sont protégés. Pour en savoir plus sur cette protection, visitez le site web de l'Autorité des marchés financiers.
C'est cute, ta playlist, mais elle t'apprendra jamais rien. Qui répondra jamais à tes textos. En tout temps, 971-1021.
Soyez fiers de faire partie de notre communauté de participants. Vous consommez plus de 10 cigarettes par jour? Cette étude est faite pour vous. Contribuez à la médecine de demain, aujourd'hui. Un seul séjour en clinique de 7 jours pour une indemnité de 3 000 $. Rejoignez l'un de nos groupes disponibles au mois de novembre, décembre ou janvier. Pour en savoir plus, rejoignez-nous au 1-833-611-2399 ou visitez notre site internet à gocineos.com.
Cineos Health. Pour un futur en santé.
Chaque jour, plus de 4 millions de Canadiens luttent contre l'arthrose. Mais pour Mathieu, chaque pas est devenu une victoire grâce à Génacol antidouleur. Ce produit naturel, cliniquement prouvé, soulage les douleurs articulaires en seulement 5 jours. Comme Mathieu, retrouvez le plaisir de bouger avec Génacol antidouleur, le supplément pour la santé articulaire le plus vendu au Canada.
Génacol antidouleur est en promotion chez Jean Coutu jusqu'au 1er novembre. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien.
Chez Couche-Tard, quand vous achetez deux caisses de 24 ou plus, on vous donne une carte rabais de 15 $.
15 piastres?
Oui, 15 $.
15 bidoux?
Oh oui.
15 tomates?
Oui.
15 cha-ching? 15...
Dis-le comme tu veux, mais c'est 15 $ à l'achat de deux caisses de 24 ou plus. Couche-Tard, simple comme bonjour. 18 ans et plus, détails en magasin.
Boulevard.
Cet automne, Boulevard vous parle un peu plus.
Mais yolo!
Mais on vous abandonne pas non plus sur le rock.
C'est ça, rock.
Un genre de meilleur des deux mondes.
Marceau le midi, Ravel dans le retour, Marceau le soir, sans oublier le Rock and Chill, Boulevard du Rock, il vole le map blanche.
Boulevard 102.1, tes sujets, ton rock, ta radio.
Le balado Histoire d'entrepreneur est présenté par La Folle qui court. C'est moi à la tête de l'entreprise qui t'offre les meilleurs leggings. Pour de vrai, là, je suis assez fière de vous présenter un produit qui est fait au Québec, 100% à Québec en plus. C'est... Je vais avoir de la prétention en disant le meilleur legging pour tes activités physiques. Va faire un tour sur lafolquicourt.com puis je te garantis que tu ne seras pas déçu. Bonne écoute.
Le gros trip de ma vie, c'est, ça a toujours été de combattre contre le statu quo.
Histoire d'entrepreneur.
J'aime ça de développer un concept novateur, investir là-dedans puis voir les gens qui trouvent leur compte dans le concept.
Avec Joanie Fortin.
Je dis pas qu'il y a pas que des mentors, on va en parler.
Présenté par La Folle qui court, l'entreprise derrière le legging parfait pour les activités physiques. Fabriqué à Québec en plus. LaFolleQuiCourt.com.
Étienne Boulay.
Salut.
T'as pas idée à quel point je suis contente de te recevoir sur ce balado aujourd'hui.
T'es
bien fine. Ben, et de un, je vais te présenter officiellement Étienne Boulay, entrepreneur.
C'est rare qu'on me présente comme
ben,
ça.
Je le sais. Puisque, ben, de un, je vais te dire, Étienne, que je suis une grande fan de ton balado, Chili chez Boulay. J'ai écouté les 104 épisodes jusqu'à présent.
Non, tu niaises.
Je te jure que je les ai tous écoutés.
Je t'adore.
Ben, puis ça fait pas si longtemps, là, tu sais, dans le sens que je les ai pas écoutés en temps réel depuis le début. Mais à un moment donné, je suis rentrée là-dedans puis j'ai adoré. Puis je pense même que je t'avais envoyé un courriel au début.
Oui, la première saison, je m'en souviens. Mais c'est un projet qui a évolué quand même pas mal là, dans les dernières années. Puis tu le sais, c'est quoi, là, t'sais, évidemment, avec le balado où on est présentement. Mais je suis bien content. Puis tu sais, des fois, c'est... Je me suis questionné beaucoup par rapport au futur de ce balado-là, à savoir si ça valait la peine. Puis c'est drôle, on dirait qu'à partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions, j'ai reçu plus de feedback. C'est comme si on dirait que la vie t'envoie un message de « Hey, tu sais pas c'est pourquoi encore, mais continue de le faire. »
Oui. Puis, ben, c'est pour ça que j'ai l'impression, puis c'est drôle, je vais avoir un discours des fois que je reçois de la part des auditeurs. Tu sais, tu connais la crowd de Weekend Radio, les auditeurs qui viennent nous voir puis qui nous disent « Hey, je t'écoute à tous les matins, j'ai l'impression que t'es mon ami, j'ai l'impression que je connais, ta vie. Même si toi, tu me connais pas, moi, j'ai l'impression de te connaître. » Mais là, je t'envoie ce discours-là aujourd'hui parce que c'est ça la beauté d'un balado, puis c'est ça qui me plaît aussi à en faire avec Histoire d'entrepreneur, c'est que t'as... Comment je pourrais dire? Tu entres dans l'intimité des gens autant quand t'en animes un que quand t'en écoutes un. T'as l'impression d'être autour de la table avec les personnes.
Ben, c'est ça qui est cool, tu sais, les discussions un petit peu plus longue durée où t'as le temps d'expliquer le fond de ta pensée, t'as le temps de changer d'idée quasiment.
Mm-hmm.
Puis c'est une discussion plus qu'une entrevue aussi. Fait qu'effectivement, moi, c'est ça avec Chili chez Boulay. L'objectif, c'est comme si tu venais chez moi, qu'on soupe. Puis qu'après ça, on se met à jaser de tout et de rien. Puis c'est un échange. Oui. C'est pas des réponses oui ou non.
Puis comment t'aimes ça se faire présenter comme Étienne Boulay, entrepreneur?
Je pense que j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Puis tu sais, j'imagine que je vais toujours l'avoir, mais C'est quelque chose que je commence à mettre de l'avant un petit peu plus, même à travers le balado. C'est drôle parce que je vais avoir des discussions qui vont tourner un petit peu plus autour de se lancer en affaires, des principes, des valeurs que ça vient chercher aussi. Mais c'est flatteur. Je suis très, 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 très content. Puis, tu sais, forcé d'admettre que outre ce que les gens voient de moi sur les réseaux sociaux ou ce qu'ils entendent à week-end, ma réalité, je dirais que, tu sais, 85%, 90% de ma réalité, c'est des projets d'affaires présentement. Puis ça m'enchante.
Puis on parlait de ton balado, puis ça, c'est une question qui revient souvent. Les gens qui en écoutent des balados, on dirait que c'est... Autant que la radio, ça peut être mythique, qu'on dirait que maintenant, le balado devient encore plus mythique. Ça marche comment, un balado? Si on parle businessment parlant, là,
oh boy.
C'est quoi le modèle d'affaires d'un balado? Ça marche-tu, un balado? Comment on peut savoir si ça fonctionne? C'est-tu rentable? Tu fais-tu des sous avec ça? Ou c'est une partie stratégique, si on veut, de ton brand?
Il y a de tout. Ouais. Il y a de tout ça. Il y a moyen de mettre ça rentable. Je pense qu'il y a plusieurs modèles que tu peux exploiter. Évidemment, les intégrations commerciales en font partie. Tu sais, la publicité, je veux dire, que tu feuillettes un magazine, que tu écoutes la radio traditionnelle, que tu écoutes la télé, il y a de la pub. C'est normal. Maintenant, c'est rendu sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est normal. Où va l'attention? La publicité va, évidemment. Puis ça vient avec des sous, puis c'est intéressant. Il y a ce modèle-là, il y a le modèle Patreon aussi, où tu sais, c'est une espèce de SaaS, là, d'abonnement, où les gens peuvent avoir accès à du contenu. Pour moi, ça, c'était plus complexe. J'ai parlé avec des gens qui ont des balados, qui connaissent beaucoup de succès sur Patreon. Ça prend quand même une gestion particulière, une compréhension de la patente. Puis moi, je suis tellement occupé que j'ai pas ces connaissances-là ou cet intérêt-là. Fait que l'avenue la plus simple pour moi, c'était d'essayer de produire un balado qui est visuellement, qui est intéressant. Le contenu est plus important que le contenant dans les balados. Ça c'est ça qui est le fun aussi. Puis d'après ça, de greffer des partenaires qui sont cohérents avec le brand, qui vont venir soutenir financièrement un peu toute la patente. T'sais, mais je vous avertis, lancez-vous pas là-dedans en vous disant « je vais être riche ». Faut que tu aies un autre objectif. Que ce soit celui d'avoir ton propre micro, de te bâtir une communauté, de te brander, peu importe. Mais tout ça, tu peux aller le chercher avec ton balado.
Puis c'est tout ça un peu ton but, d'aller chercher une communauté, de donner une image de toi que les gens ne connaissent pas. Parce que, mine de rien, tu sais, je te le disais tantôt quasiment en blague, mais moi, j'ai l'impression de te connaître. Tu sais, je connais ta vie. Puis là, tu es dans des studios que... un emplacement qui n'est pas chez vous, mais au début, c'était chez toi. Là. Fait que, tu sais, des fois, tu parlais, ah, ça se peut que ma fille, elle vienne faire un tour parce que là, si, on n'entendait pas, on est en rénovation, tu sais, on a vraiment l'impression d'être chez toi. Puis en plus, quand on regarde le visuel, moi, je suis pas mal plus en mode écoute quand je consomme du balado. Je regarde jamais un balado, mais je m'imaginais la place, tu sais. Fait que, tu sais, puis donc, c'est ça, ça évoluait avec le temps. Mais c'est ça, tu sais, l'emplacement aussi est différent. C'était-tu de montrer justement une facette de toi qui était plus ou moins accessible avec la radio ou par toutes les autres facettes de ton
Il y a eu quelques trucs qui m'ont amené à partir de la balado. Le contexte de la COVID où j'étais comme, tu sais, je vais transformer mon petit lounge au sous-sol en studio, je vais m'équiper, je vais m'auto-produire. Fait que là, il y a comme quelque chose de rassurant là-dedans. Puis il y avait aussi le fait que je trouvais que sur mes réseaux sociaux, puis ça remonte à 3 ans, puis c'est drôle parce que là, je suis comme rendu ailleurs, mais le pourquoi du comment à l'époque, c'était que je trouvais que j'avais fait le tour de ce que j'étais capable d'offrir à mes abonnés sur les réseaux sociaux, puis que c'était toujours d'espèce de pareil au même. Puis je me suis dit, pourquoi pas créer une plateforme où je vais permettre à d'autres personnes de shiner. T'sais, au lieu de juste m'entendre moi, je vais donner une tribune à d'autres personnes. Les abonnés, eux autres, vont avoir un autre discours que juste toujours Boulay qui frappe le même clou. Puis moi, je vais me nourrir aussi de ces personnes-là, puis ça va peut-être m'inspirer, puis je vais peut-être piger là-dedans pour la suite. Fait que c'est à partir comme ça. Puis effectivement, les premières années, c'était chez moi, jusqu'à ce que je sois un peu écœuré de recevoir le monde chez nous. Puis là, le ménage n'est pas fait. Là, il faut passer par le salon. Là, j'étais rendu, je vais me creuser une sortie du sous-sol. Mais...
Ah, c'est ça l'enjeu?
Mais là, j'étais un peu rendu là, mais c'est drôle que tu parles parce que les enfants rentrent de l'école à 3 heures.
Oui.
On les entend en haut. Ma fille venait me dire qu'elle était rentrée, mais tu sais, comme elle s'en fout qu'on soit en train d'enregistrer ou pas, c'était comme. Puis on venait, qu'on le jouait, mais il y a quand même eu des moments cocasses où Marie-Pierre Morin, T'sais, qui anime, oui. On passe ça de même à Weekend Montréal le matin, est venue, c'était sa première entrevue, outre Tout le monde en parle, puis elle nous parle d'un moment ultra touchant, puis elle commence à avoir l'émotion, puis la larme à l'œil, puis t'entends le Weed Eater qui part en dehors de la fenêtre parce que notre gars de gazon, il est là, puis il fait plate-bande juste à côté du studio. Fait c'est quand même des moments drôles dont je vais me souvenir, mais là, heureusement, on a un studio où on enregistre, on est avec les gars de la poche bleue. Là, fait que...
Puis d'ailleurs, cet épisode-là avec Marie-Pierre Morin, moi, je me rappelle de l'avoir écouté, j'étais en voyage, un voyage d'affaires pour mon chum, on était en Allemagne, puis je courais sur le bord de la rivière à ce moment-là. Là, puis cet épisode-là est tellement venu me chercher. J'imagine qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué plus que d'autres. Tu sais, je sais que Marie-Pierre, tu la connaissais déjà, mais parle-moi peut-être de rencontres marquantes pour toi, tu sais, qui t'ont fait peut-être réfléchir ou cheminer.
Il y en a eu plusieurs. Là,
après 104.
Puis tu sais, oh my God, son nom m'échappe, mais elle a écrit Le Sablier, puis elle a été en captivité.
Édith Blais.
Voilà, elle a écrit un livre extraordinaire. Puis, tu sais, qu'elle vient de me raconter avec une sagesse, puis une. Tu sais, comme un recul, puis un calme émotif, le fait qu'elle a été capturée par des talibans pendant plus d'un an, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais je vais faire un tease sur un épisode qui s'en vient. Puis, c'est avec Jonathan Filteau, qui est le policier de Québec, qui était un des. Ou le premier arrivé aux événements de la Grande Mosquée.
Oh mon Dieu.
Et. Il a raconté en détail comment il a vécu ces événements-là. Puis c'est bouleversant. Et à la fois, c'est d'une grande maturité aussi. Puis tu sais, moi, ce qui me touche toujours là-dedans aussi, c'est de parler de santé mentale. Puis d'avoir un gars comme lui qui a vécu des traumatismes, tu sais, puis qui est capable de s'en sortir, mais qui exprime le besoin... De parler quand t'en as besoin. Je trouve que c'est des modèles comme ça qu'on doit avoir puis qu'on doit entendre.
Puis est-ce que, justement, ça, trouvais-tu avant que tu nommais déjà bien les choses ou ça t'a fait, justement, te dire « Ah, ben, peut-être que j'exprime pas encore ce que je voudrais comme je le voudrais » ou, tu sais, toi, t'es dans ton cheminement, justement, de santé mentale parce que, oui, c'est ça, tu sais, t'en parles vraiment avec tous tes invités. C'est ça, est-ce que tu chemines encore là-dedans, même si t'as fait quand même beaucoup de chemin jusqu'à présent?
Oui, oui, puis je pense que je vais toujours cheminer. Puis des fois, c'est des petits reminders. Puis c'est drôle parce que ce que je remarque, c'est qu'il y a peu d'acquis dans la vie, tu sais, puis surtout dans ce qui me concerne, moi, c'est la sobriété, c'est qu'il faut qu'on le voit un 24 heures à la fois, tu sais, puis là, bon, mais tu sais, ma job pour aujourd'hui, c'est de terminer la journée dans sobriété. Demain, je gérerai rendu là, tu sais. Mais c'est un peu la même chose en termes de gestion des émotions, puis de parler, tu sais, il y a des semaines où je l'ai l'affaire, puis je suis comme, OK, tu sais, je vais appeler quelqu'un si je fais le pas, ou peu importe où je... Puis des fois, je retombe dans mes vieilles pantoufles, dans mes vieux patterns de « Ah, que ça me tente pas d'y faire face. » Je me ferme la trappe. Quelqu'un me dit « Ça va-tu bien? » Ça va super bien. Puis je suis capable de traîner ça quelques jours. Oui. C'est juste que là, avec les outils que j'ai maintenant, puis avec des rencontres comme celle-là, avec des discussions, mais des fois, c'est un petit reminder de « Ah, tabarnouche, tu t'es positionné, puis t'encourages les gens à prendre soin d'eux, puis tu le fais pas nécessairement. » Mais je suis loin d'être parfait. Fait que je navigue encore, puis je pense que ça va être une game d'essais-erreurs toute ma vie. T'sais. À partir du moment où je pense que je l'ai l'affaire, c'est là peut-être que je me mets à risque.
Oui, exactement. Et puis, dis-moi, comment tu entretiens ta santé mentale au quotidien? Je sais que tu fais de l'activité physique. Là, je veux dire, je pourrais le dire comment tu le fais parce que justement, je t'écoute, mais je veux t'entendre là-dessus puis je veux qu'on en discute parce que moi aussi, tu sais, mon entreprise, La Folle qui court, qui commandite le balado en ce moment, c'est ça. C'est l'activité physique pour prendre soin de soi physiquement, oui, mais surtout mentalement. Moi, c'est ça. C'est l'activité physique. Ouais. C'est ma thérapie, fait que je voulais t'entendre.
Bien, je vais te le dire, puis je serais curieux de t'entendre toi aussi là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a certains points communs, tu sais, peu importe notre background, mais la première affaire, c'est d'apprendre à se connaître et de se regarder dans le miroir tel qu'on est, de ne pas se compter de mentir, de ne pas se voir comment on aimerait être. Moi, je suis bon dans quoi? Moi, je suis un excessif. Que je le veuille ou pas. Puis je me souviens, il y a eu des années, j'étais comme là, je vais devenir équilibré. Ben non, buddy, c'est pas de même, ça marche. Tu seras pas équilibré. Mais tu peux choisir dans quel domaine tu vas être excessif. Fait que je m'entraîne à tous les matins. Est-ce que c'est sain Je le sais pas. Mais moi, j'en ai besoin. J'ai un besoin de discipline. Je vais prendre, tu sais, puis je suis pas en train de dire que les gens, il faut qu'ils fassent ça, mais l'espèce de douche froide, c'est rendu un running gag. Mais moi, je la fais à tous les jours, même quand ça me tente pas. Puis plus souvent, pourquoi? Parce que cette discipline-là me fait croire que je m'en vais dans la bonne direction, puis ça m'aide à bien... Ça donne une espèce de botté dans la voie à ma journée, de m'entraîner, de prendre ma douche froide, où je suis comme, OK, je suis discipliné, j'ai bien parti ma journée, maintenant, je vais continuer dans les bonnes habitudes.
Tu tournerais trois fois sur toi-même, ça changerait pas la douche froide, dans le sens que ce serait ta discipline, exact. Quand même. Je fais cette action-là, suivie de celle-ci, et voilà, c'est ma discipline, that's parce it. Que je l'ai faite, c'est
puis,
ça.
Puis des fois, l'autre affaire, puis ça, tu le sais, parce que j'en parle souvent dans mon podcast, mais... c'est de ramener les choses à sa forme la plus simple. C'est-à-dire, aussitôt que je file pas, que ce soit émotivement, que ce soit physiquement, il y a quatre points d'ancrage pour moi, puis je réinvente pas la game. Là, vous allez pas apprendre de quoi de révolutionnaire, mais je me pose les quatre questions suivantes. Est-ce que j'ai bu de l'eau aujourd'hui? Les chances, si présentement vous écoutez le show et que vous avez mal à la tête ou que vous filez moyen, posez-vous la question. T'as-tu bu de l'eau? Si tu n'as pas bu de la journée, c'est un petit peu normal que tu fais le croche. Mon alimentation a l'air de quoi? Tu sais, tu comprends, là, je veux pas commencer à parler de malbouffe parce que là, ça aussi, je sais que c'est un dossier glissant là, des fois, mais...
C'est délicat.
Mais, tu sais, ton alimentation va en dire beaucoup. You are what you eat, tu sais.
Tout à fait.
L'autre affaire, c'est mon sommeil et comment? Est-ce que j'ai un sommeil réparateur? Je me couche-tu toujours au même?